chers auditeurs, vous êtes là. J'aime savoir que vous êtes là comme chaque dimanche et que nous allons penser et nous émouvoir ensemble. Moi, en vous parlant, vous, en m'écoutant. Je vous ai dit que l'inconscient est la force qui nous dicte les choix essentiels de notre vie. Nous nous croyons libres alors que nous sommes contraints par ce que nous avons vécu dans notre enfance. C'est notre passé qui décide à notre place. La liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est d'aimer ou de ne pas aimer ce que le passé a fait de nous. Si vous aimez ce que le passé a fait de vous, vous êtes bien avec vous-même. Et si vous n'aimez pas ce que le passé a fait de vous, vous ne vous aimez pas et vous souffrez. Mais alors, l'inconscient, me demanderez-vous, c'est le passé ? Oui, l'inconscient, c'est le passé. Le passé qui se répète dans notre présent, sans que nous y pensions. Voilà le thème de notre émission, la répétition. La répétition que j'illustrerai avec l'histoire cruelle de William, notre patient. Après vous avoir parlé de William, je répondrai comme d'habitude à vos questions suscitées par l'écoute de nos podcasts, déjà accessibles sur notre page L'Inconscient.
L'Inconscient, Dr Nasio, sur France Inter.
À propos de la répétition, je suis allé consulter un philosophe très ancien nommé Pindare. La plupart d'entre nous ne connaissent pas Pindare. Pindare est une merveille de philosophe. Il vivait en Grèce, à Thèbes, dans les années 500 avant Jésus-Christ. Pindare était un philosophe, mais aussi un poète. Le poète qui chanta la gloire des athlètes et des premiers Jeux olympiques. Cependant, son thème de prédilection était la répétition qu'il résumait en une simple phrase « Tout ce qui existe est une répétition de ce qui a été ». Je vous le redis, « Tout ce qui existe est une répétition de ce qui a été ». En lisant Pindare, en écoutant mes patients et en m'écoutant moi-même, une évidence s'impose. Tout ce qui est a déjà eu lieu. Oui, chers auditeurs, ce que nous sommes en train de vivre en cet instant, vous et moi, nous l'avons déjà vécu. C'est une répétition. Ce n'est pas seulement une répétition dans le sens où vous me diriez « Docteur Nasio, je vous ai déjà entendu à la radio ». Non, non, c'est une répétition, parce que moi-même, étant enfant, je prenais plaisir à raconter à ma mère ce que je venais d'apprendre à l'école. Et aujourd'hui, je prends le même plaisir à vous raconter à vous ce que j'ai appris dans mon cabinet. Vous existez dans ma vie depuis mon plus jeune âge et je suis sûr que j'existe dans la vôtre depuis longtemps, depuis que petit enfant, vous vous endormiez le soir en écoutant des histoires. Bien sûr, je ne vis pas en me disant à tout moment que ce que je vis, je l'ai déjà vécu. Ce serait horrible. Je vis en croyant, comme tout le monde, que chaque moment de ma vie est nouveau et que je le vis pour la première fois, alors qu'en vérité, je répète mon passé. Cela étant, mon passé peut se répéter dans le présent pour notre bonheur ou pour notre malheur. Quand le passé revient et s'intègre harmonieusement dans notre vie d'aujourd'hui, il nous pousse à aller vers l'avant. Et la répétition est alors une répétition heureuse. À l'inverse, quand nous répétons les mêmes échecs, les mêmes erreurs ou les mêmes douleurs qu'hier, la répétition de notre passé est une répétition malheureuse. Nous avons donc des répétitions heureuses et malheureuses, mais il y a aussi des répétitions pathologiques. où les malades répètent son passé traumatique de manière incoercible et souvent destructrice. C'est le cas de William, le patient dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais allons doucement. Qu'est-ce que la répétition en général ? La répétition est une pulsation qui rythme l'ordre biologique, psychologique, social et même cosmique. Je vous en propose la définition suivante. La répétition est une suite en trois temps. Une chose apparaît, disparaît et réapparaît. Mais attention, quand cette chose réapparaît, elle est légèrement différente. Il n'y a pas de répétition de l'identique. Lorsque chaque matin, nous ouvrons le rideau, le soleil est toujours nouveau. Cela étant, pour qu'il y ait répétition, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui compte les apparitions successives. Une fois, deux fois, trois fois, quatre, etc. Il n'y a pas de répétition sans une tête qui compte. Si nous pensons à l'exemple de William, dont je vais vous parler, vous verrez qu'il a souffert d'un choc émotionnel dans son enfance et que plus tard, devenu adulte, il a été dépassé par des comportements compulsifs, pénibles et pervers qui l'ont amené à me consulter. Eh bien, le choc émotionnel dont il a souffert dans son enfance est la première apparition de sa maladie. Ensuite, le temps a mis en veilleuse cette blessure traumatique et beaucoup plus tard, elle va réapparaître masquée sous la forme des comportements déviants qui rendent la vie de William impossible. Vous savez, tout vécu intense qui submerge un enfant s'imprime dans son cerveau et tend à réapparaître plus tard dans sa vie d'adulte sous la forme des troubles névrotiques sévères. La névrose d'aujourd'hui est la répétition du choc émotionnel d'hier. Mais ne l'oublions pas, il faut quelqu'un, le thérapeute, qui fasse le lien entre le traumatisme d'hier et les symptômes d'aujourd'hui, qui communique ce lien au patient et qu'ensemble, ils essayent de rendre le traumatisme inoffensif. Schématiquement, nous distinguons trois sortes de résurgence du passé dans le présent. Le passé revient dans notre conscience. Le passé revient dans les événements agréables ou désagréables de notre vie quotidienne. Et dans le cas des troubles pathologiques comme ceux de William, le passé revient dans des souffrances invalidantes. La première résurgence du passé, la plus ordinaire, est celle qui apparaît à la conscience et que nous appelons souvenir. Le souvenir est le plus souvent une impression visuelle, mais il peut être aussi une impression sonore, tactile, olfactive ou encore gustative. Comme la saveur de la madeleine trempée dans le thé qui rappelle à Proust le doux univers de son enfance. Mais quel est ce passé qui revient à la mémoire ? Est-ce le passé que nous avons réellement vécu ? Certainement pas. La mémoire est toujours fantasque et infidèle. Quand nous pensons par exemple à la maison de notre enfance, nous l'imaginons immense, alors que si nous y retournons, nous sommes déçus de la trouver si petite. La maison que le jeune adolescent a quittée n'est plus la même dans la mémoire de l'adulte qu'il est devenu. Ainsi, le présent opère-t-il comme une lentille déformante du passé. Le second mode résurgent du passé n'est plus le souvenir, mais un moment d'émotion que nous vivons, ou notre manière d'aimer ou de nous séparer de ceux que nous aimons. Ou encore, le passé revient sous la forme d'une décision importante que nous prenons sans savoir que c'est notre passé qui a décidé pour nous. Venons-en maintenant au troisième mode de résurgent du passé lorsqu'il se précipite dans la maladie. C'est de William dont je vais vous parler à présent. Mais avant d'entrer dans son histoire, je voudrais que vous sachiez que lorsqu'un traumatisme a frappé un enfant ou un adolescent, l'émotion pénible qu'il a vécue n'a qu'une impatience, celle d'être revécu, revécu et revécu encore. C'est diabolique. Le trauma appelle le trauma. L'émotion vécue dans le traumatisme agit comme une drogue et le traumatisé devient addict à cette drogue. C'est terrible. Le traumatisé a été victime et paradoxalement, il veut retrouver sa douleur. Pour que vous compreniez mieux ce paradoxe pathologique de vouloir réprouver une douleur ancienne, je voudrais vous faire entendre la parole d'une ancienne patiente à moi, Isabelle, lors de son premier entretien. En toute innocence, elle me raconte son addiction à la pratique sadomasochiste. « J'ai eu des relations sexuelles avec mon frère aîné, me dit-elle, pendant plusieurs années, entre mes 10 ans et mes 14 ans. Puis, à l'âge des 25 ans, j'ai rencontré un homme qui m'a initié aux pratiques sadomasochistes. Et maintenant, 15 ans après, alors que je croyais avoir tourné la page, je retombe dans les mêmes travers. Je viens de rencontrer un homme dont je suis follement amoureuse, docteur. Un homme beaucoup plus âgé que moi avec lequel j'ai à nouveau de relations sadomasochistes. J'ai peur de tout perdre, mes enfants, mon mari, ma carrière, et en même temps, je suis comme envoûté. Je ne peux pas me passer de mon amant. Je me sens perdu. C'est pourquoi je viens vous voir. Aidez-moi. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je voudrais vous faire remarquer à quel point le récit d'Isabelle nous montre que le plaisir qu'elle a éprouvé si précocement dans la relation incestueuse avec son frère agit comme une drogue qui la rend esclave. Nous, thérapeutes, nous avons donc pour mission de sevrer notre patient de sa tendance à répéter le trauma et le détacher ainsi du passé traumatique dans lequel il est resté figé.
L'inconscient avec le docteur Nazio.
Venons-en maintenant à l'histoire de William. J'ai beaucoup hésité à parler de son cas parce que quelques détails scabreux pourraient choquer certains d'entre vous. C'est un cas déjà très ancien et dont j'ai maquillé l'identité, comme je l'ai fait avec tous les cas dont vous m'entendez parler. Si j'ai décidé de vous en parler, c'est surtout grâce au dénouement heureux de cette cure. William a fini son analyse il y a une vingtaine d'années et une fois retourné à Londres, il m'a adressé une longue lettre pour m'annoncer qu'il allait être père. Mais voici son histoire. Ce haut fonctionnaire britannique de 35 ans était venu me voir après trois ruptures successives des fiançailles ayant toutes eu lieu quelques heures seulement avant la cérémonie du mariage. À chaque fois se reproduit le même scénario. Envahi par l'angoisse de devoir s'engager, gagné par la panique, il prend la fuite et laisse tout le monde en plan. Fiancés, famille, invités et même le maire. Hormis les nombreuses difficultés provoquées par ces déconcertantes volte-face, William me consulte surtout parce qu'il se retrouve seul et désespéré à l'idée de ne jamais pouvoir fonder une famille.
Inconscient. Docteur Nazio.
Hormis les successives ruptures de banc, au cours de la cure, apparaîtront deux autres symptômes tout aussi ravageurs. William était soumis à deux autres compulsions qui le faisaient souffrir, mais qui le soulageaient aussi. Ici, je précise ce qu'est une compulsion. La compulsion est une action qu'on ne peut pas s'empêcher d'accomplir. C'est plus fort que soi. Souvent, l'angoisse est tellement insupportable que pour les stopper, il n'y a qu'une seule solution. Se jeter dans l'action. Eh bien, outre ces fuites devant le mariage, William ne pouvait pas s'empêcher de se masturber tous les jours dans les toilettes, en appelant le téléphone rose, où une voix féminine, humiliante et injurieuse, lui enjoignait de se mettre à quatre pattes et de se fouetter avec un martinet. C'était pour lui le seul moyen d'atteindre l'orgasme. Une fois la décharge obtenue, il s'effondrait et regrettait aussitôt d'avoir cédé une fois de plus à la tentation abjecte de jouir dans l'humiliation. La seconde compulsion tout aussi incontrôlable était de se rendre chaque semaine durant 4 ans à Liverpool, sa ville natale, pour s'installer dans le fauteuil d'un cabinet dentaire, ouvrir la bouche et endurer les soins très douloureux infligés par son oncle, vieux chirurgien dentiste. Besoin compulsif de rompre ses fiançailles, besoin compulsif de se masturber en s'avilissant et besoin compulsif de se faire maltraiter par son oncle. Pourquoi ces compulsions? Pourquoi ce comportement masochiste? À quel maître invisible et tyrannique William est-il soumis? William vit sous la domination d'une scène traumatique vécue dans son enfance. Une scène dont il se souvient, mais dont il ignore quelle est la cause de sa compulsion de répétition. Il s'agit d'une scène horrible, plusieurs fois racontée en séance. William, enfant, est le témoin sidéré des disputes sanglantes où son père injurie et frappe sauvagement sa mère. À partir de ce souvenir et des 3 besoins compulsifs que nous avons relevé, rompre les fiançailles, se masturber en s'avilissant et se livrer à son oncle sadique, j'imaginais que le petit William ne se limitait pas à regarder ses parents s'entretuer. Dans la scène que j'ai imaginée, moi, thérapeute, le garçon joue tous les rôles, celui du bourreau, celui de la victime, et celui du témoin. Il est à la fois celui qui frappe et injurie, c'est le père, celle qui hurle sous les coups, c'est la mère, et le petit spectateur effrayé par la violence de les scènes, c'est lui-même. William s'emplit tantôt du sadisme du père, tantôt de l'humiliation de la mère, et tantôt de la stupeur du témoin. Je vous ai dit que cette cure avait été une réussite, puisque la dépendance aux pratiques compulsives a cessé peu à peu. C'est toujours très difficile de traiter une névrose de répétition compulsive. Aussi, je voudrais vous dire l'essentiel de ce qui m'a permis d'accompagner William vers la guérison. Hormis notre excellente relation faite d'estime et de confiance mutuelle, le geste clé de mon action de thérapeute a été d'entrer imaginairement dans la scène traumatique et de me identifier au petit William. J'ai ressenti la même émotion traumatique faite de sadisme, d'humiliation, de sidération et même de chagrin pour la mère et d'abomination pour le père. Je voudrais être clair. Je ne me suis pas identifié à mon patient adulte allongé sur le divan. Certes, j'étais sensible aux émotions qu'il éprouvait en séance, mais ce ne sont pas ces émotions conscientes que j'ai cherché à revivre, non. Je me suis identifié à un enfant imaginaire et je ressentis ce qu'il aurait ressenti devant le drame des parents qui se déchirent. Or, c'est grâce à cette identification imaginaire que je puis, entre autres choses, dire à William que se masturber en se flagellant était sa façon à lui d'être sa mère gémissant sous les coups du père. Cette scène, mise en lumière, maintes fois approfondie, en séance, a fini par perdre sa charge toxique. William a vécu alors des séances bouleversantes où il revivait en ma présence l'émotion de la scène traumatique. Je voudrais conclure en vous disant que pour enrayer la répétition compulsive d'une ancienne émotion traumatique, nous devons faire en sorte que le patient s'en souvienne et la revive, mais attention, en étant cette fois avec nous. Le patient doit revivre le trauma en toute lucidité en la présence d'un tiers, le psychanalyste, avec lequel il partage intimement sa douleur ancienne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la force diabolique qui pousse un être à répéter sans cesse ce qui est le pire pour lui. Mais ne partez pas. Après la musique, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées à la suite de l'écoute de nos podcasts. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me laisser vos questions et remarques soit sur la page de notre site L'Inconscient, sur franceinter.fr, ou bien sur le répondeur du 01 56 40 64 04. Memorize the bath water, memorize the air. There'll come a time I wanna know I was here. Names on the door frames, inches and ages. Handprints in concrete at the softest stages. I don't know why I don't try. Like throwing towels into water. Get it down to nothing. Everything that matters. Fever flashes, eyelashes, and traffic patterns. Humidity, history, chemistry, and panic. Swimsuits in the windows of electric minivans. Forward now.
car. I guess you forgot it. Crazy, the things we let go. It finally hits me, a mile's drive. The sky is leaking, my windshield's cracked. I'm feeling sacred, my soul is stripped. The radio's painful, the words are clipped. The grief it gets me, the weird goodbyes. My car is creeping, I think it's died. I'm pulling over until it heals. I'm on a shoulder of lemon fields.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez adressées après avoir écouté le podcast interactif qui est en ligne sur la page L'inconscient sur franceinter.fr. Maintenant, c'est à vous. Je vous écoute.
Oui, bonjour Emmanuel et merci pour cette excellente émission, docteur Nasio. Ma question concerne l'épisode sur William et la répétition du passé traumatique. Comment est-ce que vous pouvez travailler avec un patient qui n'a pas le souvenir conscient d'un trauma vécu dans l'enfance, qui est si douloureux, qu'il est enfermé à double tour et le refoulement ne lui permet pas de l'avoir en mémoire consciente, et dans ce cas-là, comment faites-vous pour travailler ce trauma ? Merci.
Merci beaucoup, Emmanuel, de cette question. Elle est importante. D'ailleurs, nous allons probablement nous consacrer, dans cet moment des questions, à répondre à comment je travaille, comment travaille un psychanalyste avec un traumatisme. Et vous posez vraiment la première question. Ça veut dire, est-ce que le patient se rappelle qu'il y a un traumatisme ? Est-ce que nous sommes sûrs qu'il y a eu un traumatisme ? Effectivement, commençons par cela. D'abord, il faut identifier l'incident traumatique dans le passé du patient. Cela n'est possible qu'à condition que nous échangions, à condition que les séances reviennent sur cet éventuel incident. Et c'est seulement ainsi que le thérapeute pourra effectivement avoir la confirmation ou non de ce qui s'est passé. Vous savez, il était question de savoir si le traumatisme a eu lieu ou non véritablement. Donc, il est très important de travailler avec le patient et nous assurer qu'effectivement, il a existé un traumatisme et un incident traumatique précis et daté, si possible. L'autre point important, c'est de savoir que s'il y a eu traumatisme, il y a des conséquences du traumatisme. En général, un traumatisme provoque des conséquences à l'âge adulte. En imaginant que ce soit un traumatisme survenu à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence, il y a toujours des symptômes à l'âge adulte. À tel point que lorsque nous avons des patients avec certains symptômes à l'âge adulte, je peux déduire, inférer qu'il y a eu un traumatisme dans son enfance ou dans son adolescence. Ça peut être, attention, ça peut être un traumatisme, ça veut dire un seul incident traumatique, ou bien ça peut être une série d'incidents, ce que j'appelle des micro-traumatismes, qui se sont succédés au cours d'une longue période. Par exemple, je raconte tout à l'heure dans le récit concernant Isabelle, cette patiente qui a eu 4 années de micro-traumatisme qui a duré dans la relation incestueuse avec son frère. Donc, attention, il n'y a pas un seul incident traumatique dans la vie d'un être qui souffre aujourd'hui. Il peut y avoir une série de micro-traumatismes qui se succèdent durant un certain temps. Donc, une fois que nous identifions soit un événement traumatique, soit une série d'événements qui se succèdent, tous traumatisants, c'est là que nous pouvons petit à petit prendre conscience avec le patient et retravailler la répétition du traumatisme dans sa vie.
Bonjour, Cathy, je vous appelle de Madrid et voici ma question en rapport à l'histoire de William. Vous dites que la liberté, c'est quand on est capable d'aimer ou de ne pas aimer ce que le passé a fait de nous. J'ai toujours la sensation que l'on appartient à ce passé à vie, que nos cellules sont empreintes de nos ancêtres. Alors ma question, quelle partie de nous est unique ?
C'est extraordinaire votre question, je vous remercie. Je vous dirai que la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est d'aimer ou de ne pas aimer ce qui vient à nous, ce qui se présente à nous. S'il y avait une définition de la sagesse, ça serait celle-là. Donc, j'ai mis 2 formules. Première formule, aimer ou ne pas aimer ce qui vient à nous. 2e formule, aimer ou ne pas aimer ce qui ressurgit de notre passé dans notre présent. Les 2 formules sont très proches. Parce que ce qui vient à nous, c'est toujours lié à mon passé. Mais Cathy, oui, il y a un aspect que vous voulez savoir, puisque ce qui vient à nous est toujours différent. Quel est ce « nous » ? Qui est ce « nous » ? Qui sommes-nous ? Il y a une belle chanson qui dit « Tout change ». Eh bien, c'est vrai. Dans la vie, tout change, sauf quelque chose d'essentiel en nous qui ne change pas. Et c'est ça votre question, Cathy. Qu'est-ce qui ne change pas en nous depuis notre naissance et même depuis bien avant notre naissance ? La partie de nous qui est unique, c'est la vie que nous avons faite, les actes essentiels de notre vie et comment nous avons réagi. Et pour moi, cette partie unique, c'est la manière que nous avons eue d'aimer ou de nous séparer. Les actes essentiels de notre vie, c'est les actes d'amour, des liaisons, la manière de nous lier à quelqu'un ou à un objet, une maison, un lieu. Et puis, il y a les actes essentiels qui sont les actes de la séparation. Notre vie est jalonnée par des moments d'union et par des moments de séparation. Eh bien, Cathy, notre être unique, qui n'est pas ni mon père, ni ma mère, ni mon grand-père, mon être unique est celui qui a, d'une manière qui est tout à fait personnelle, a su se lier à quelque chose ou à quelqu'un et a su se séparer de quelque chose ou de quelqu'un.
Comment peut-on se débarrasser de ces traumatismes de l'enfance? De quelle façon? Comment on peut vivre en étant soulagé et en ayant digéré tout ce qui s'est passé dans son enfance? Merci.
Merci Laurence de votre question. Je voudrais répondre en trois parties. D'abord, définir qu'est-ce que c'est que le traumatisme. Vous dire ensuite les différents types de traumatismes. Et enfin, répondre nettement à la question de Laurence, comment se débarrasser du traumatisme. En fait, la question de Laurence est plutôt comment se débarrasser des effets négatifs, pathologiques du traumatisme. Bien, commençons par la définition du traumatisme. Qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme? Un traumatisme, c'est une lésion provoquée par une forte excitation chez une personne qui n'a pas les moyens psychiques et psychologiques d'amortir la dite excitation. C'est pour ça que la plupart des traumatismes ont lieu dans l'enfance et dans l'adolescence, parce que nous sommes à ces moments-là des êtres fragiles. Nous n'avons pas tous les moyens psychiques et psychologiques d'amortir les excitations fortes qui viennent à nous. Donc, le traumatisme, ainsi défini, nous avons deux types de traumatismes. Il y a des traumatismes que j'appelle des traumatismes de croissance. Pourquoi ? Parce que ce sont des secousses qui viennent naturellement dans la vie au fur et à mesure que nous grandissons. Et puis vous avez les traumatismes violents auxquels nous pensons quand nous utilisons le mot traumatisme, c'est-à-dire un incident violent qui est survenu à un enfant qui est abandonné ou un enfant qui est maltraité. Ce sont des traumatismes violents auxquels l'enfant n'a pas les moyens de pouvoir répondre. Le traumatisme violent est une lésion. Ça veut dire qu'il y a une atteinte. Du point de vue neuroscientifique, on peut dire que l'atteinte est au niveau du cerveau et qu'il y a une rupture des connexions entre les neurones. Cette rupture va être une rupture qui reste chez les sujets et qui, plus tard, peut se réactiver sous la forme des symptômes, des souffrances vécues par l'adulte qu'il est devenu. Maintenant, comment nous débarrasser de ces traumatismes? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se débarrasse, je dirais, de l'effet pathologique du traumatisme. Et la chose importante que je voudrais que vous sachiez, chères auditrices et chers auditeurs, c'est que quand il y a un traumatisme, l'émotion qui vit la personne qui est traumatisée, cette émotion veut revenir toujours dans la vie, veut réapparaître, veut ressurgir. Le trauma, le mot trauma, c'est le nom qu'on donne à l'émotion traumatique. Et c'est-à-dire que ce qu'a vécu un être qui est cette douleur, ce mélange des douleurs, des stupeurs, eh bien cela veut réapparaître plus tard. Et c'est ça la répétition, c'est le thème d'aujourd'hui avec Williams. Et donc le travail de l'analyse, c'est d'arrêter cette répétition, ce retour de l'émotion traumatique qui veut revenir sans cesse. Comment on se débarrasse de ça? Nous l'arrêtons avec la reviviscence. La reviviscence, c'est de revivre cette émotion, mais attention, en présence d'un tiers, d'un professionnel. Donc, c'est de revivre l'émotion, de revivre les mots que ont accompagné le traumatisme et de revivre la scène traumatique. Et c'est très important. Ce n'est pas simplement un souvenir du traumatisme, mais de le revivre avec quelqu'un professionnel à mon côté. Voilà comment nous arriverons à une chose essentielle, c'est d'intégrer l'émotion traumatique dans la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer ? Ça veut dire qu'il faut que mon traumatisme, mon émotion traumatique, ma chose horrible que j'ai vécue, cela devienne un événement, certes marquant, mais un événement comme tous les autres événements de mon passé. C'est ça, intégrer. Réponse donc à Laurence, comment se débarrasser de le traumatisme de nos enfances, je dirais des traumatismes violents de nos enfances, comment se débarrasser en le intégrant dans la vie d'aujourd'hui et faisant qu'il soit un événement parmi d'autres.
France Inter, l'inconscient.
Et nous poursuivons avec les questions que vous m'avez laissées.
Bonjour, docteur Nazio, merci pour votre émission. Voilà, je m'appelle Jonathan, je voudrais savoir si ce que vous dites de la répétition, qui dans l'exemple de William prend une forme assez spectaculaire, si on peut dire, est aussi vrai pour les formes de répétition plus modestes, plus communes. Je pense à ces schémas qu'on ne peut pas s'empêcher de reproduire dans nos vies, dans notre couple, notre vie professionnelle, notre famille, dans notre rapport aux autres en général. Voilà, est-ce que pour vous, la répétition de ces schémas est aussi liée à un événement particulier de notre passé, aussi clairement identifiable que pour William ? Je vous remercie.
C'est très intéressant, Jonathan, votre question. D'ailleurs, me rappelle le titre d'un de mes ouvrages, un de mes livres, qui s'appelle « Pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs ?» Eh bien, là, c'est pas la répétition d'un traumatisme, c'est la répétition des erreurs, des maladresses. Eh bien, je dirais à votre question qu'il y a répétition lorsque l'événement premier a été trop fort, trop marquant. Quand il y a une émotion trop forte, cette première fois, elle tend à se reproduire. Si la première fois que j'ai commis une erreur, j'étais trop pris par l'événement, par l'erreur, et j'ai le vécu très fortement, eh bien, je vais répéter cette erreur. Ce n'est pas du traumatisme dont nous parlons, ce n'est pas des Williams, c'est de nous. Il nous arrive donc de faire une première expérience très marquante et puis de la voir se répéter. Donc, soyons clairs, pour qu'il y ait répétition, il a fallu qu'il y ait une première fois qui était très marquant, très intense.
Bonjour, je suis Isabelle et je vous remercie de cette merveilleuse émission que j'ai partagée et qui vraiment nous apprend beaucoup, beaucoup de choses. J'avais une question très importante que je souhaitais poser au docteur Nazio. Est-ce que lorsqu'on a été enfant et témoin d'une scène d'adultère de l'un de nos parents, cela peut expliquer tous les échecs et les frustrations que l'on a mis au sein de sa vie professionnelle et qui traduisent encore la culpabilité, la colère qui sont présentes et qui sont inconsciemment revécues. Voilà, c'est quelque chose de très pesant et je voudrais connaître la réponse et savoir comment s'en libérer, qu'est-ce qu'il fallait entamer et comment faire. Je vous remercie en tout cas pour ce bel éveil des consciences. Bonne continuation à toute l'équipe. Merci beaucoup.
Merci Isabelle de votre question. Elle concerne certainement beaucoup de personnes qui nous écoutent. Il est vrai que lorsqu'un enfant a été témoin d'une scène d'adultère de ses parents, et parfois c'est des scènes qui sont très brutales et violentes, cet enfant va être perturbé dans sa vie d'adulte. Mais si vous me permettez une correction, ce n'est pas seulement cela qui va provoquer les troubles ou les difficultés dans sa vie d'adulte. Vous savez, tout ce qui nous arrive n'a jamais une seule cause. Il y a toujours plusieurs causes. Donc les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie de professionnel ou votre vie d'adulte affective n'est pas due qu'à ce traumatisme vécu étant enfant. Certes, c'est un traumatisme. Certes, il a eu des conséquences dans votre vie d'aujourd'hui. Il est indiscutable. Mais ce n'est pas que ça. Cela étant, je dois dire que pour se débarrasser de ce souvenir traumatique, il faut donc revenir, comme je disais, à l'émotion traumatique, revivre la scène, et c'est horrible, ce sont des séances intenses, des séances douloureuses, mais des séances accompagnées avec un professionnel qui travaille avec vous, qui parle, qui écoute, et qui vous permet de revenir à cette scène. Votre exemple me rappelle un patient avec lequel je travaillais une scène traumatique, et c'est lui-même qui m'a dit « Docteur, j'aimerais la dessiner ». Et un adulte, il s'est levé du divan, je lui ai donné le papier, crayon, et il a dessiné la scène. C'était une façon de se débarrasser de cette scène, ou plutôt se débarrasser des effets nocifs, pathologiques de la scène. Voilà.
Bonjour, c'est Jocelyne. Je voulais réagir au podcast qui concerne William. Il se trouve que j'ai un proche qui souffre d'une névrose compulsive de répétition. Comme William, suite à d'importantes carences affectives de la part de sa mère dans sa petite enfance, cet homme a développé cette grave névrose. Il recherche indéfiniment un amour maternel non reçu, en multipliant les conquêtes féminines à qui il dit « Dis-moi que tu m'aimes, que je suis ton Dieu » et a une attitude dégradante vis-à-vis des femmes lors de pratiques dans les clubs échangistes. J'ai deux questions. Peut-il réellement se soigner à plus de 60 ans et sortir de ce schéma? Y a-t-il un avantage à faire une thérapie ou doit-il rester comme il a toujours vécu? Il dit avoir fait une thérapie express dont il pense être guéri, mais parce qu'il a plus d'addiction au sexe, mais son discours montre l'inverse. Et pourquoi plus généralement la personne souffrante et victime de cette névrose met-elle autant de freins à sa guérison? Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
Merci Jocelyne de votre question. Ma première impression, c'est qu'il s'agit d'un homme qui ne souhaite pas entreprendre aucune thérapie. Pour lui, il le pense comme ça, il n'est pas malade. Ou s'il a été malade, maintenant il est guéri. Donc je sens que votre question, c'est plutôt comment faire pour qu'il prenne conscience de sa maladie et il puisse profiter d'une thérapie. Je vous dis tout de suite, c'est très difficile. La condition numéro un pour qu'une personne puisse bénéficier d'un traitement, quel qu'il soit, peu importe la technique, c'est qu'il le veuille, c'est qu'il soit disposé. Je dirais, c'est les 70% de la guérison. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas que quelqu'un souffre, c'est que quelqu'un souffre et veut ne plus souffrir. Donc, est-ce que c'est le cas de cet homme? Probablement pas. Je pense que lui, il se considère qu'il a fait ce qu'il était nécessaire et que maintenant, il n'a pas à se préoccuper de continuer à recevoir l'aide d'un professionnel. En dehors de lui, la question que vous posez, si quelqu'un peut se soigner à plus de 60 ans, mais bien sûr que si, je réponds sans hésiter, évidemment, mais c'est en dehors de lui. Parce que par rapport à lui, à l'homme dont vous parlez, j'insiste, il est très difficile qu'il accepte de se traiter.
Bonjour, monsieur Nazio. Jacqueline, Je vous pose une question sur le cas de William. J'aurais deux questions. Diriez-vous que chez les personnes qui souffrent d'une addiction, addiction à la drogue, à l'alcool, aux jeux vidéo, etc., leur dépendance à leur pratique compulsive est une répétition d'une scène traumatique vécue dans l'enfance? Deuxième question. Il y a des personnes qui ont vécu un événement traumatique à l'âge adulte. Je pense par exemple aux attentats terroristes comme celui qui a eu lieu au Bataclan à Paris. Comment le psychothérapeute procède-t-il dans ce cas pour atténuer l'impact du choc émotionnel qui se répète en des symptômes invalidants chez ces personnes? Merci de vos réponses.
Merci Jacqueline de vos deux questions qui sont très précises et très utiles pour tout le monde, puisque effectivement, toute personne souffrant d'addiction, donc d'une dépendance à une drogue ou à des comportements sans drogue, eh bien, oui, sont des personnes qui ont eu une expérience traumatique, soit durant l'enfance, soit durant l'adolescence. Absolument. Cette expérience traumatique a été la première, j'insiste, et c'est à partir de là que la répétition se déclenche. Rappelez-vous, le problème, ce n'est pas le traumatisme originaire, le problème, c'est la répétition du traumatisme. C'est pour ça que je fais le récit de Williams aujourd'hui. C'est la répétition du traumatisme. Deuxième question, est-ce qu'une personne adulte ayant vécu un événement traumatique comme l'attentat au Bataclan, est-ce que, bien sûr, nous travaillons de la même manière qu'on travaille avec une personne ayant vécu un traumatisme infantile? C'est-à-dire, on utilise cette arme fondamentale qui est la reviviscence. Et rappelez-vous, les mots clés, c'est intégration. Ça veut dire que on revient à la scène traumatique, on revit l'émotion et on cherche à intégrer cet événement parmi les événements vécus durant la vie. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Merci à tous pour votre intérêt et vos questions qui nous ont permis d'approfondir un thème difficile comme celui d'une névrose grave avec des accès pervers. Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais remercier Audrey Ripouille pour la réalisation de notre mission et des podcasts, ainsi que Marie Le Peintre à la technique. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. D'ici là, je vous invite à aller sur la page L'Inconscient où vous pourrez trouver nos prochains épisodes en podcast.